Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
L'engagement était historique. En 2015, 195 pays sont parvenus à un accord pour limiter le réchauffement climatique.
Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degré.
Sauf que ce seuil symbolique de 1,5 degré va être franchi. 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée à la surface du globe, selon l'Observatoire européen Copernicus.
On ne peut pas s'attendre à autre chose. Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Nous sommes condamnés à voir se multiplier des phénomènes climatiques extrêmes.
Pour enrayer l'accélération du réchauffement climatique, l'Union européenne préconise de décarboner la production d'électricité. C'est ce que fait la France en misant sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Mais le recours à l'éolien et au solaire fait débat. Dans une tribune, une dizaine de grands patrons et d'anciens politiques pro-nucléaires dénoncent une politique énergétique ruineuse et hasardeuse.
La poursuite aveugle du développement accéléré des énergies intermittentes en France contribuera à un affaiblissement de notre souveraineté énergétique, à l'augmentation du prix de l'électricité, à une dépendance accrue vis-à-vis d'équipements importés de l'étranger.
De quoi faire réagir les défenseurs de l'éolien et du solaire dans cette contre-tribune.
Aucun des points soulevés ne résiste à une analyse sérieuse. Pire encore, ces arguments induisent en erreur. Nucléaire, éolien et solaire peuvent être complémentaires.
Alors les énergies vertes représentent-elles un atout ou une illusion, comme l'assurent leurs détracteurs? Faudrait-il choisir entre nucléaire et renouvelable? La France fait-elle fausse route?
Pour participer à notre débat, François Goulard, bonsoir monsieur, ancien bonsoir. Ministre, vice-président de l'Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat. Vous êtes l'un des signataires de la lettre ouverte adressée à Michel Barnier le 1er décembre dernier dans Le Point. Et selon vous, il faut cesser la marche forcée vers les énergies renouvelables, les éoliennes et les panneaux solaires en l'occurrence, ne servent en aucun cas à la décarbonation de la France et toujours selon vous, font grimper le prix de l'électricité. À côté de vous, Antoine Trouche, bonsoir, vous êtes ingénieur, membre du collectif Pour un réveil écologique. Vous avez répondu à la lettre de votre voisin par une contre-tribune disponible sur le site construirelecologie.fr. Selon vous, il faut déployer plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires. C'est d'autant plus nécessaire, ajoutez-vous, que nos besoins en électricité augmentent. C'est incompréhensible de s'opposer au développement donc des renouvelables, comme on dit. Et enfin, Anne-Claire Poirier, bonsoir madame, journaliste, spécialiste écologie et énergie. Vous travaillez notamment pour Vers le Média et Le Figaro. Selon vous, la transition écologique renchérit le coût de l'énergie de manière générale. On ne peut pas se contenter du nucléaire, d'autant que le coût des énergies renouvelables a plutôt tendance à baisser. Et on va démarrer avec un chiffre
du ministère de la Transition écologique. En 2023, l'an dernier, donc, les énergies renouvelables représentaient 22,2% de la consommation finale brute d'énergie dans le pays. L'objectif en 2030, c'est 33%. Alors, on est encore loin de ces 33%. Mais pour vous, tout de même, François Goulard, on le disait, vous parlez de marche forcée vers les énergies renouvelables. Vraiment ?
Oui, alors, c'est une marche forcée dans la planification écologique qui est prévue. Enfin, qui était prévu par le gouvernement démissionnaire, et surtout c'est une marche forcée à l'échelle européenne. Nos réseaux sont interconnectés, et les problèmes que nous dénonçons sont des problèmes qui sont évidemment européens et pas seulement français. Et nous pensons que le développement excessif, je dis bien excessif, des renouvelables menace la stabilité et la fiabilité des réseaux électriques.
Il faut revenir sur ce chiffre, cet objectif de 33% par exemple pour vous,
je pense qu'il est excessif, d'autant que l'Allemagne a fait le choix du 100% renouvelable d'un côté et du 100% thermique de l'autre. Puisque les deux sont inséparables. Plusieurs spécialistes des réseaux électriques, je dis bien des réseaux électriques, parce que ce sont des sujets qui sont techniques, qui sont complexes, pensent qu'on risque un jour d'avoir ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire le réseau électrique saute, quand les tensions ne sont pas suffisantes, quand des fréquences sont affectées, quand des intensités ne sont pas au rendez-vous. Mmh. Et le blackout, c'est une véritable catastrophe.
Antoine Trouche.
Dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, déjà, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était embêtant. Mais aujourd'hui, tout fonctionne à l'électricité. Les réseaux numériques sont immédiatement arrêtés. Les paiements sont arrêtés, etc. etc.
La menace de blackout, on va laisser répondre votre voisin quand même, Antoine Trouche, quand même. Je vois froncer les sourcils. Est-ce qu'on peut en arriver là à cause des énergies renouvelables, ce que dit votre voisin?
Alors, c'est vrai que les énergies renouvelables, alors là, on parle vraiment des énergies renouvelables électriques, hein, le chiffre de 33%, c'est sur l'ensemble du mix énergétique. Mmh. En fait, dans le mix électrique, à l'heure actuelle, les énergies renouvelables éoliennes et solaires, donc celles dont les niveaux varient en fonction de la météo, c'est 15% de la production d'électricité. Donc ça peut être étonnant pour
des énergies intermittentes, hein, on les appelle intermittentes.
Voilà, ou intermittentes, variables, en tout cas, leur niveau varie en fonction de la météo. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde un peu les rapports qui sont faits par les agences dédiées, notamment Réseau et Transport d'électricité, elles nous disent clairement que si on atteint des très hauts niveaux de pénétration des énergies renouvelables électriques sur le réseau, là, effectivement, ça devient compliqué de maintenir une production d'électricité qui correspond à chaque instant à la demande. Mais on n'en est pas du tout là. En fait, là, à l'heure actuelle, l'enjeu, c'est on a un parc de centrales nucléaires important, et entre nous, moi je suis très content qu'on ait un parc important de centrales nucléaires, et en plus de ça, là on a des besoins en électricité qui vont aller croissant dans les 10 prochaines années. La différence, c'est que dans les 10 prochaines années, on va avoir besoin de plus d'électricité. Mmh. Il faut à tout prix qu'on sorte du pétrole et du gaz, qui représentent 60% de nos besoins en énergie, si on sort de l'électricité. 60% de notre consommation d'énergie, c'est du pétrole et du gaz. Si on veut en sortir, il faut des véhicules électriques de taille raisonnable, des pompes à chaleur, des fours électriques dans l'industrie, et pour ça, on a besoin de plus d'électricité.
Mais pardon, vous n'êtes pas d'accord sur la production même d'électricité, alors, M. Goulard, vous dites on n'aura pas besoin de produire davantage, vous, c'est ce que vous dites dans la tribune.
Alors, les projections de RTE et de la direction compétente du ministère de la Transition énergétique, ces projections sont, à notre avis, tout à fait excessives. C'est-à-dire qu'il est souhaitable, évidemment, de développer l'électrification des usages. C'est une nécessité, on est tous d'accord, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça va de soi, et là-dessus, on se rejoint totalement. Mais les projections qui sont faites officiellement sont tout à fait excessives, c'est-à-dire qu'elles sont démenties par ce qui se passe à l'heure actuelle. Actuellement, il y a un recul de la consommation d'électricité.
Alors, Anne-Claire, bon, est-ce que c'est le cas ? Sur ces chiffres,
Il y a eu une stabilisation parce qu'on sort d'une période quand même très trouble avec le Covid, avec une crise énergétique qui a fait qu'il y a des process industriels qui ont été à l'arrêt. Mais
à cause de la guerre en Ukraine,
à cause de la guerre en Ukraine, parce que quand l'électricité s'est mise à coûter très cher, il y a des process qui se sont arrêtés tout simplement. Mais la logique d'une hausse de la consommation d'électricité, elle est très très claire et surtout elle va être massive. Hein. On anticipe plus de 35% de consommation dans les 10 ans qui viennent, 50% en plus. Et cette électricité, pour le produire vite et bas carbone, il n'y a pas mille solutions.
Hein, alors, ça va être... Le fait que ce soit moins cher aujourd'hui, le fait que l'énergie renouvelable soit moins chère.
Il est évident que, comme dans toute activité, les prix ont tendance à baisser quand on produit davantage de machines, etc. Ça a été spectaculaire pour le solaire, mais le solaire reste extrêmement cher. Et puis alors, on parle des renouvelables.
Alors, on va voir quand même que ça reste assez cher, l'énergie renouvelable.
Le prix d'un kilowatt-heure.
Oui, on va voir par rapport, c'est plus cher que l'énergie nucléaire. Vous allez voir les
chiffres. Le prix d'un kilowatt-heure produit par une éolienne est plus cher aujourd'hui.
On a entre 90 et 200 euros du mégawatt-heure pour l'éolien terrestre ou offshore, et c'est bien moins cher pour le nucléaire, 59,8 euros, 109 euros, voire les panneaux solaires, 142 euros, Antoine. Donc ça reste cher, l'énergie renouvelable.
Ouais, alors là, je sais pas exactement.
C'est un peu sceptique sur les chiffres. Ouais, c'est ça.
Alors, faut vraiment regarder ce qu'il y a derrière. Quand on regarde vraiment la production d'électricité, c'est-à-dire ce qui sort les électrons qui sont mobilisés par un panneau solaire, une éolienne, je veux dire, il y a rien de moins cher. Quand on regarde vraiment ce qui sort, il y a pas de doute. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte,
c'est un coût de production, donc il y a forcément des investissements sur.
Bien sûr, il y a des investissements. Mais je veux dire, quand on prend en compte les investissements et qu'on pose un panneau solaire ou une éolienne, je veux dire, il y a rien de moins cher à l'heure actuelle.
Désaccord avec ça.
Mais du coup, discutons après. C'est que faut pas regarder uniquement l'installation de ces moyens.
Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder ?
Parce qu'un panneau solaire, une éolienne, ça produit pas tout le temps. Et donc, du coup, en même temps que l'installation, il faut prendre en compte les coûts du réseau électrique. Il faut prendre en compte les coûts de ce qu'on appelle les flexibilités, c'est-à-dire on compense le fait qu'on produit pas tout le temps, donc faut équilibrer. Et du coup, quand on regarde tout, il faut vraiment insister là-dessus, on voit dans les derniers rapports de RTE que quand on a un mix dans lequel on a une part à peu près égale de nucléaire et d'énergie renouvelable, c'est là où on a le coût moyen sur l'ensemble du réseau qui est optimal. Pourquoi est-ce que...
Optimal, c'est-à-dire le moins cher possible.
Le moins cher possible. Voilà. D'accord. D'ici 2050, c'est l'étude de RTE. Bon. Juste un point très important, c'est que ce que je dis, c'est pas très étonnant, parce qu'en fait, c'est vraiment les conséquences de tous les scénarios de transition écologique qui existent en France.
Alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
d'accord.
Très oui. pro-nucléaire bon, ou très pro-renouvelable, ils sont tous d'accord.
Et vous n'avez pas un anti-nucléaire à côté.
Alors, d'abord, bon, on constate quand même que les pays qui ont fait le choix du tout renouvelable, comme l'Allemagne, ont un prix de l'électricité sensiblement plus élevé que le nôtre. Et d'ailleurs, ça leur pose un problème économique, et c'est probablement la raison pour laquelle l'Allemagne s'est tellement battue pour que l'Europe impose une politique conforme à l'Energiewende allemande, c'est-à-dire à pousser les renouvelables, à notre avis, au-delà du raisonnable, au lieu d'admettre le nucléaire comme une énergie, une production d'énergie
les totalement décarbonée. Les Verts allemands ont voulu en finir
donc,
avec le nucléaire.
Les faits sont là. Deuxièmement, quand on parle des coûts du kilowattheure renouvelable, on omet de dire que les conditions de marché ne sont pas du tout les mêmes que pour le nucléaire. Le renouvelable bénéficie d'une priorité d'accès au réseau, bénéficie de contrats avec des prix garantis, bénéficie de la gratuité des raccordements.
Donc, alors subvention, que vous dites.
Mais c'est totalement subventionné.
Est-ce que c'est le cas ?
Je reviens sur l'argument que mon voisin vient d'exposer et qui est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il faut d'autres installations pour pallier l'insuffisance des renouvelables quand les conditions climatiques ne sont pas les meilleures.
En préparant cette émission, parce que vous avez dit en préparant cette émission, la transition écologique rend chérie le coût de l'énergie de manière générale. Est-ce que c'est le cas ? C'est ce que me dit M. Goulard.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des énergies qui, il y a encore 10 ans, étaient assez balbutiantes et il a fallu les lancer, il a fallu les financer. Cela dit, en ce moment, quand je parlais d'une révolution tout à l'heure, vraiment, le mot n'est pas trop fort. La chute des coûts est quand même massive. Et puis, bon,
c'est très subventionné, dit M. Goulard aussi.
Ce ne l'est plus. À l'heure actuelle, c'est 3-4 milliards. Non, mais il faut voir avec quoi on compare. C'est 3 ou 4 milliards d'euros par an quand il faut payer. Les fossiles, c'est des dizaines de milliards d'euros par an.
Excusez-moi.
Donc, il faut voir avec quoi on compare.
On parle de faits. Dans le budget, feu le budget qui a été préparé par le gouvernement démissionnaire, il y avait très peu d'augmentation de crédit. Le seul budget qui avait une augmentation très sensible de ces crédits, c'était le budget de la transition énergétique, qui en toutes lettres figurait dans le texte, qu'il était inscrit 4,6 milliards d'euros supplémentaires, je dis bien supplémentaires, pour faire face au coût des contrats des renouvelables.
Vous dites ça rapporte le renouvelable.
Absolument. Alors bon, je me lance. le mode de subvention en France des énergies renouvelables, c'est ce qu'on appelle un prix garanti. Les producteurs d'électricité vendent leur électricité sur le marché. Si les prix de marché sont trop faibles, l'État s'engage à compléter et à leur fournir un prix qui est garanti à l'avance. Or, ces deux dernières années, on a eu des prix de marché très 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 élevés. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Les producteurs d'énergie renouvelable reversent à l'État le surplus. Ils ont versé à l'État plus de 40 milliards d'euros.
En combien de
ces deux dernières années ?
Deux dernières années.
C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, ils ont remboursé en 2 ans une dette qu'ils avaient accumulée pendant 10 ans. Le bouclier tarifaire, qui est quand même bel et bien des subventions aux énergies fossiles, pour aider les gens, la prime à la pompe, ça a coûté 72 milliards d'euros. Donc c'est ça que ça coûte. En fait, il faut voir à quoi on compare les énergies renouvelables. On les compare à des énergies qui sont fossiles.
Alors, vous parlez du prix à la pompe. Nucléaire. On va évoquer avec vous trois, avec Anna évidemment, le fait que certaines entreprises pétrolières investissent dans le renouvelable, quoique le vent semble tourner.
Oui, exactement. Changement de cap pour le géant britannique BP qui a annoncé lundi qu'il allait réduire ses investissements dans les énergies renouvelables et cela de manière significative pour se recentrer sur le pétrole et le gaz. La semaine dernière, c'est Shell qui a annoncé, lui aussi, arrêter tous ses projets d'éolien en mer. Alors, l'argument avancé par ces deux géants, c'est le manque de rentabilité, oui, car les énergies renouvelables ne rapportent pas suffisamment quand on les compare aux hydrocarbures. Il y a beaucoup plus de concurrents dans les énergies vertes. La réglementation est complexe dans certains pays, sans compter que les politiques climatiques sont instables pour le moment et qu'il faut en plus faire face à de nombreuses oppositions. Bref, plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est un avis que partage le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui s'exprimait hier lors d'un colloque. On l'écoute.
Moi, je suis désolé, quand je regarde, j'ai 500 développeurs énergie renouvelable en France qui arrivent à faire péniblement 300 à 400 mégawatts par an. C'est pas possible de continuer comme ça. Je vous le dis, moi, aux États-Unis, j'ai construit 2 gigawatts en un an, quoi. Je ne peux pas continuer à investir, à avoir autant de personnes qui me coûtent de l'argent pour un rendement aussi faible.
Voilà, un rendement faible, mais en tout cas, Total, attendez, je termine, Total annonce pour le moment qu'il va poursuivre ses investissements dans les énergies renouvelables, contrairement à BP ou HL. Alors, Antoine Trouche, est-ce que le fait que ces deux entreprises pétrolières arrêtent d'investir dans les énergies renouvelables, est-ce que ça n'est pas la preuve qu'il y a quand même un problème de rentabilité des énergies renouvelables ?
En fait, dans toutes les raisons que vous avez évoquées, effectivement, hein, ces raisons, il y en a une bonne partie qui sont justes. Mais en fait, ça cache un peu la principale raison.
Laquelle ?
La principale raison, c'est qu'à l'échelle du monde, pour le moment, on n'a pas des politiques de décarbonation qui encouragent assez le fait de sortir des énergies fossiles. Et donc, contrairement à ce qu'on dit...
Il n'y a pas de business model qui permette d'être rentable aujourd'hui sur les énergies renouvelables.
Ah, mais c'est complètement possible si on met en place soit des systèmes de taxation du carbone, soit des aides. De toute façon, il ne faut pas s'illusionner. Si pour le moment, notre civilisation, elle est largement basée sur la combustion des énergies fossiles, c'est parce qu'au moment où on les brûle, ça coûte pas très cher. Le problème, c'est que ça nous met en danger. Je veux dire, la combustion des énergies fossiles, c'est pas une question de petits oiseaux, c'est question
ça
de mise en sécurité de la société. Je veux dire, le réchauffement climatique, la pollution de l'air que ça génère, la dépendance géopolitique que ça génère.
Donc c'est une question de santé publique.
Donc la question derrière, c'est clair que si jamais on sort pas des énergies fossiles, on peut rester avec notre mix électrique actuel et on peut se passer des renouvelables.
François Goulard, vous dites quand même, pour avancer dans le milieu, vous dites les renouvelables sont sans effet sur le climat. Écrivez-vous dans la tribune.
Oui,
ça peut surprendre.
Mais non, mais attendez.
Sans effet positif sur le climat ?
Pour une raison extrêmement simple, c'est que quand vous avez des renouvelables, les renouvelables ne fonctionnant pas tout le temps, il faut avoir à côté du thermique, c'est-à-dire, dans le cas de l'Allemagne, du gaz, du charbon, de la lignite. Qu'on brûle à tire-larigot, et ça a un effet négatif sur le climat. Et si on base tout, si on fonde tout sur le renouvelable, on aura éternellement des centrales thermiques à gaz, à charbon, et donc c'est une catastrophe pour le climat. On est tout à fait d'accord sur la question climatique, aucun doute. Mais dans ce que vous dites là sur les pétroliers, ben, y a un effet Trump évident. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on l'annonce ? Parce qu'ils savent très bien qu'aux États-Unis, on va totalement abandonner toutes les politiques destinées à lutter contre le changement climatique et que ça va être la
Vous le déplorez ? J'imagine.
Évidemment. Mais on ne peut pas comparer ce qui se passe dans le reste du monde et ce qui se passe en Europe. En Europe, on a pris un parti pris très favorable aux renouvelables et à notre avis, trop favorable aux renouvelables.
Mais qu'est-ce que vous proposez pour les 10 ans qui viennent là ? On a une décennie qui est cruciale, c'est celle à laquelle il va falloir faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut plus se permettre d'ouvrir de centrales fossiles, on n'a pas le temps d'ouvrir de centrales nucléaires. Qu'est-ce que vous proposez ?
Attendez, alors d'abord, première chose, c'est 10 ans. Bon, et
c'est 10 ans
actuellement,
qui sont cruciaux,
attendez, il y a des projections officielles. Mais ces projections officielles ne sont absolument pas réalisées, puisque aujourd'hui, la consommation, non pas stagne, mais baisse. La consommation électrique baisse.
Alors, on vient d'expliquer pourquoi,
COVID,
on sait qu'elle va augmenter.
Le Covid, c'est du passé. Et le Covid, il y a eu un effet rebond. Et après, il y a eu le prix du gaz russe. D'ailleurs, avant la guerre en Ukraine, ça a commencé avant. Mm-hmm. Et ça, c'est stabilisé aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que électrifier les usages, ça prend du temps. Parce que ça suppose que les ménages investissent dans des voitures électriques, dans des pompes à chaleur, et que ça ne se fera pas comme ça. Et donc,
Anne-Claire Poirier, s'il vous plaît, votre point de vue.
Mais c'est-à-dire que les infrastructures, effectivement, c'est du temps long. Pour produire de l'électricité décarbonée rapidement, les solutions ne sont pas si nombreuses que ça. Et industriellement, les filières sont prêtes, contrairement au nouveau nucléaire. Et surtout, il y a un consensus scientifique qui est très très net. Autant on pourrait faire une transition énergétique sans nouveau nucléaire, autant on ne peut pas faire de transition écologique en France et ailleurs sans énergie renouvelable.
Antoine Trouche, quand même, la question qui se pose, c'est le stockage. On se dit tant qu'on ne peut pas stocker cette énergie renouvelable, c'est vrai que ça peut être problématique sur la transition tout de même, non ? On ne peut pas, quand on fait de l'éolien, se dire bon, on va en mettre de côté pour plus tard. Non, c'est impossible aujourd'hui.
Eh bien, en fait, si. On le fait déjà sur des pas de temps réduits. On sait très bien le faire avec des barrages réversibles, sur des durées qui sont de l'ordre d'une semaine. Vous avez deux stocks d'eau, un hauteur.
Très court.
Non, exactement, sur une semaine. Et vous avez...
Qu'est-ce que c'est qu'un barrage réversible, pardon
Vous avez un en altitude, un en moindre altitude. Oui. Et du coup, quand vous avez besoin d'électricité, vous laissez couler l'eau. Et du coup, c'est un barrage qui produit de l'électricité. Quand vous avez trop d'électricité, vous pompez l'eau et vous le ramenez
en altitude. Mais c'est sur une semaine. Vous dites, on ne peut pas le faire avec projection sur l'année.
Les capacités sont extrêmement faibles aujourd'hui. Et deux, la réalisation d'ouvrages barrage comme cela prend énormément de temps, au moins autant de temps que la construction d'une centrale nucléaire.
Anne-Claire Poirier.
Aujourd'hui, on stocke déjà le surplus d'électricité nucléaire, notamment dans nos chauffe-eau la nuit. Et en fait, il faut que le marché s'adapte, car demain, en fait, les surplus d'énergie ils seront photovoltaïques, donc ce sera à midi. Et c'est ce qu'on appelle le stockage dans les usages. En fait, on va stocker dans nos batteries de voitures électriques, dans nos chauffe-eau qui ont des capacités énormes. C'est un défi. Le système doit s'adapter, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il peut s'adapter. C'est pas du tout infaisable de s'imaginer que demain, les heures creuses et les heures pleines, ce sera heures creuses midi 16h et non plus minuit 4h du matin, parce qu'actuellement, on a du surplus d'électricité nucléaire qu'on stocke aussi, et
Antoine
on y arrive.
Et je pense vraiment que ce qui est important, c'est que la discussion, c'est pas est-ce qu'on va vers du 100% renouvelable, c'est pas ce vers quoi on va en France pour le moment. RTE dit très clairement qu'on peut aller jusqu'à 50% d'énergie renouvelable, éolien et solaire, sans avoir besoin d'inventer des technologies qu'on n'a pas. Avec les barrages réversibles, avec de la demande un peu plus flexible, avec des véhicules électriques, etc. Et c'est vraiment très important, parce qu'il y a plein d'emplois qui dépendent de ce dont on raconte. Je veux dire, là, concrètement, en France, on a un tiers des capacités de production d'éoliennes mer d'Europe. C'est énorme, on s'en rend pas compte.
L'éolien n'a pas de, il y a pas d'incident sur l'environnement avec l'éolien en mer, ou il y a pas d'incident.
Bah, bien sûr.
Il y a aucune énergie.
Comme on les étudie pas, on peut pas le savoir.
Il y a des légions d'écologues du Muséum national d'histoire naturelle.
Dites-nous, Antoine Trouche. Attendez, laissez parler Antoine Trouche.
Évidemment, des études sur l'impact des pannes d'éoliennes sur les oiseaux, et les écologues y passent du temps. C'est bien pour ça qu'on essaie de mettre les éoliennes en mer sur des trajectoires où on n'a pas des courants migratoires. C'est tout l'enjeu. On voit que globalement, ce qui tue la biodiversité dans le monde, c'est l'artificialisation des sols, c'est la surpêche, c'est pas les éoliennes.
Ouais. Dans mon département d'origine, le Morbihan, il y a un projet qui s'appelle Lao 5, au large de Belle-Île, d'éoliennes flottantes, une usine éolienne flottante, avec des mâts qui vont faire à peu près 300 mètres. Bon. Il n'y a eu strictement aucune étude sur les conséquences en matière de courant, de matière de sédiments, et donc on est dans le flou le plus total. Et quand vous dites que c'est des solutions qui peuvent être mises en œuvre à horizon de 10 ans, c'est totalement faux. L'éolien flottant n'est pas au point. On ne sait pas comment faire. On a attribué Lao 5 à un groupement d'entreprises qui ne sait pas quelle technologie mettre en œuvre.
Mais l'éolien flottant, c'est expérimental.
Anne-Claire Poirier.
Il n'y a aucune énergie qui n'a pas d'impact sur l'environnement. Ça n'existe pas, c'est un mythe. En l'occurrence, actuellement, les énergies fossiles qu'on brûle, c'est 80% des gaz à effet de serre dans le monde, et c'est pour ça qu'on est dans une crise climatique majeure en ce moment. Les énergies renouvelables sont extrêmement surveillées, on connaît les impacts, et ils ne sont pas nuls, c'est vrai, ils ne sont pas nuls. Mais le premier ennemi de la biodiversité, je vais vous dire, c'est pas les éoliennes, hein, c'est pas les pales d'éoliennes qui tuent quelques oiseaux, c'est vraiment le changement climatique aujourd'hui.
Mais on est tous d'accord là-dessus.
Une question sur la souveraineté pour finir.
Mais oui, mais sur la souveraineté, monsieur Goulard, vous dites que vous êtes attaché au nucléaire et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Mais notre souveraineté, est-ce qu'elle est mieux assurée avec le nucléaire, sachant par exemple qu'aujourd'hui on n'a plus de mines d'uranium, qu'on est obligé d'importer ce minerai.
Alors, en termes de souveraineté, on a vu ce qu'il en était de l'Allemagne avec le gaz russe. Bon. Pour les renouvelables, la plupart des matériels sont importés, notamment les panneaux solaires. Bon, ils sont importés de Chine. Pour le minerai d'uranium et pour l'uranium, l'énorme avantage par rapport au gaz, c'est que le stockage d'uranium ne prend pas beaucoup de volume. On peut stocker pour des années.
Donc on peut stocker,
et d'autant que demain, avec les réacteurs à neutrons rapides, on n'aura pas besoin d'importer d'uranium. On utilisera l'uranium qui a déjà été utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée comme carburant. Donc,
c'est vrai qu'on ne produit pas aujourd'hui nos éoliennes et le panneau solaire. Tout ça, c'est quand même de l'importation et c'est pas très écolo quand même d'aller chercher nos panneaux solaires en Chine.
Alors déjà, ça dépend parce que je vous disais, il y a une bonne partie des éoliennes en mer qu'on installe en France qui sont produites en France. Et surtout, j'insiste, l'enjeu, c'est pas de comparer la souveraineté liée au nucléaire ou au renouvelable. Là, on a deux tiers de notre consommation d'énergie qui vient d'énergies fossiles qu'on importe de pays tout à fait désagréables pour la plupart. Donc la question, c'est est-ce qu'on gagne en souveraineté quand on remplace
les pays désagréables, pardon.
Bah, c'est des pays producteurs de
les pétromonarchies.
C'est la Russie encore qui nous fournit un peu de gaz, c'est des pétromonarchies. Et donc du coup, là concrètement, la question c'est est-ce que de l'électricité nucléaire ou renouvelable, c'est meilleur en termes de souveraineté que des énergies fossiles? Et dans les deux cas, je veux dire, le nucléaire, vous avez complètement raison.
Le
nucléaire, quand il est installé, on est souverain pendant une certaine durée. Et les énergies renouvelables, une fois qu'on les a installées, elles tournent le temps de leur durée.
Merci.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.